Bonsoir. Depuis plusieurs années, l'économie congolaise tourne au rythme des devises étrangères, notamment le dollar. La majorité des services de l'État sont fixés en monnaie étrangère, comme la vignette, l'assurance et même les frais scolaires. Le gouvernement réfléchit sur les voies et moyens pour mettre fin à ce système. Que faire pour sortir la RDC de cette situation? Et quel impact cela pourrait avoir sur l'économie congolaise? Pour en parler, nous recevons Jean-Louis Kayembe Wakayembe, directeur général en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires à la Banque Centrale du Congo. Monsieur le directeur général Kayembe, bonsoir. Monsieur Kayembe, bonsoir.
Bonsoir.
Honorable Jean-Lucien Boussa, député national de l'opposition, ancien vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale, il est secrétaire général adjoint du MLC, chargé des questions politiques et stratégiques. Honorable Boussa, bonsoir.
Bonsoir.
Al Kitenge, analyste politique et économique. Monsieur Kitenge, bonsoir. Voilà, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci pour vos réactions, chers auditeurs et internautes. Robert Kabandani de Bukavu Sud Kivu, cette démarche du gouvernement pour que tout soit en monnaie nationale est une bonne chose si cette dernière était forte. Faire cela avec une monnaie faible est une peine perdue. Freddy de Béni au Nord Kivu, la démarche est louable pour valoriser notre monnaie, mais la crainte est que cela ne se transforme en slogan comme on a coutume, car une monnaie forte fait la dignité et la fierté du pays. Nous sommes mercredi 12 septembre 2012, bienvenue à tous dans votre émission.
Continuez à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Mettre fin à la fixation des prix des biens et services en dollars en RDC, la préoccupation est en discussion au gouvernement. Le Premier ministre Augustin Matata est revenu ce mardi sur cette question lors de la rencontre avec le ministre du Budget et le ministre délégué aux Finances. En effet, depuis plusieurs années, l'économie congolaise tourne au rythme des devises étrangères, notamment le dollar. La majorité des services de l'État sont fixés en monnaie étrangère, comme la vignette, l'assurance, les amendes transactionnelles de la police et même les frais scolaires. Il faut dire que cette situation ne facilite pas la tâche à la monnaie nationale. Explication Jacques-Yves Molima.
Le processus est déjà engagé, a expliqué le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, pour une dédollarisation responsable de l'économie congolaise. Une série de mesures sera prise dans un délai relativement court. Selon lui, tout partira des transactions au sommet de l'État.
Comment nous faisons pour que les transactions de l'État se dénouent en monnaie nationale? Comment nous faisons pour que les impôts et taxes payés par les entreprises, payés par les individus sur le territoire national, puissent être acquittés en monnaie nationale et non pas en devises étrangères?
Ceci tout simplement parce que la dollarisation de l'économie congolaise pose des problèmes, comme l'explique Patrice Kitebi.
D'abord, la monnaie nationale n'a pas le statut d'instrument de souveraineté parce que l'essentiel de transactions se font en monnaie étrangère. Deuxièmement, nous avons des problèmes pour la conduite de la politique monétaire. Les instruments de politique monétaire qui sont déployés par la Banque centrale sont globalement inopérants.
Toutefois, la monnaie congolaise continue à rester stable.
Merci Jacques-Yves Molima. Jean-Louis Kayembe, Wakayembe, je rappelle que vous êtes directeur général en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires à la Banque Centrale du Congo. Nous parlons de la dédollarisation de l'économie congolaise, mais à quel moment cette économie a-t-elle commencé à se dollariser et pourquoi?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Beaucoup de pays au monde, le phénomène de dollarisation, a résulté de conséquences d'instabilité de la monnaie nationale. Donc, en réaction à cette instabilité à la monnaie nationale, les citoyens comme les pouvoirs publics de plusieurs pays ont eu à détenir une monnaie autre que la monnaie nationale, de manière à préserver leur pouvoir d'achat, à préserver le pouvoir d'achat de revenus de leur épargne. Ainsi donc, il y a une forte corrélation entre l'instabilité monétaire et la dollarisation de l'économie. Et donc, dans plusieurs pays, c'est ce lien-là qui a, qui a, qui a, qui a été vérifié. Et donc, on ne peut, l'émergence de la dollarisation est liée à l'instabilité de la monnaie nationale, comme je venais de le dire. Et ici, en RDC, ce sont effectivement la dollarisation assez accélérée autour des années 90. Les souvenirs sont bons, de plus des auditeurs, c'est que c'est au cours de ces années-là qu'on a connu des taux d'inflation élevés. Nous étions donc en pleine période d'hyperinflation. Pour rappel, nous avons connu en 1994 même un taux pic d'inflation autour de proche de 10 000%. Donc dans un contexte marqué par la dépréciation continue de la monnaie nationale, et donc il n'est quoi de plus normal que les opérateurs économiques des pouvoirs publics cherchent des moyens rationnels, cherchent des actifs de refuge et puissent convertir tout ce qu'ils ont comme avoir en monnaie nationale et convertir en monnaie étrangère, en l'occurrence les dollars. Et donc, c'est dans cette situation que les économies se dollarisent. Et donc, la dollarisation, c'est en fait les recours, l'utilisation d'une monnaie étrangère, généralement les dollars, dans les transactions. Et donc, voilà, dans notre pays, c'est autour des années 90, du fait de l'hyperinflation, la période d'hyperinflation que nous avons traversée, qui en fait accélérait la dollarisation qui, à la date d'aujourd'hui, tourne autour de 89%. Donc, lorsqu'on prend la part des dépôts en devise dans les dépôts totaux au niveau du système bancaire, donc ces dépôts en devise représentent près de 90%, comme je le disais. Et donc, c'est cela, en fait, l'indicateur de la dollarisation de l'économie.
Voilà. En passant, je signale que j'ai affaire à des économistes. Alors, je vous prie d'utiliser des termes simples pour faciliter la compréhension également de nos auditeurs. Monsieur Kayembe, pourquoi le gouvernement choisit ce moment pour mener cette réflexion? Est-ce qu'il prendrait par exemple en compte le fait que la stabilité du cadre macroéconomique avec la stabilité du franc congolais depuis un certain temps?
Tout à fait, monsieur le journaliste, parce que, comme vous le savez, la dollarisation de l'économie a commencé depuis quelques années déjà. Maintenant, peut-être ce qu'il faut dire, ce qu'on veut, le gouvernement veut appuyer sur l'accélérateur. Parce que imprimer un préalable pour que l'on puisse accélérer maintenant la dollarisation, la dédollarisation, c'est tout simplement parce que, les préalables sont presque réunis. Et parmi le premier préalable, le très important, c'est que parmi les conditions, les facteurs clés de réussite d'une dédollarisation, c'est en fait l'environnement macroéconomique qui doit être caractérisé de pro-dédollarisation. Donc un environnement macroéconomique pro-dédollarisation, cela veut dire quoi? C'est un environnement qui est caractérisé par un niveau d'inflation très bas et des taux d'intérêt très bas et donc une stabilité au niveau du taux de change. Et cela, je crois que ces conditions, cet environnement, nous l'avons obtenu depuis plusieurs années, non seulement obtenu, et nous l'avons maintenu. Voilà pourquoi, au regard de cette stabilité qui a été obtenue et maintenue depuis plusieurs années, stabilité qui a été pérennisée, le gouvernement et la Banque centrale trouvent que c'est le moment d'accélérer pour ce processus de dédollarisation. Donc, c'est le contexte macroéconomique qui est favorable à cette opération, processus de dédollarisation, parce que on ne peut pas parler de dédollarisation lorsque le cadre macroéconomique n'est pas stable. Le moment est opportun parce qu'on a stabilisé. Et puis il y a d'autres facteurs, notamment à part l'environnement pro-dédollarisation, et également la promotion des instruments substituts au dollar, parce qu'on ne peut pas dédollariser tant qu'on n'a pas d'autres instruments, d'autres moyens de paiement qu'on peut substituer au dollar. C'est donc dans ce contexte-là, tout récemment, la Banque centrale a mis en circulation des grosses coupures, des coupures à valeur faciale adaptées. C'était juste pour trouver des substituts au dollar. C'était également, ça s'inscrivait, cette action, cette réforme, s'inscrivait également dans le cadre de la dédollarisation de l'économie. Il y a donc d'autres mesures.
Parmi les stratégies, oui. Je vous prie de m'excuser. Le temps de donner la parole à l'honorable Boussa. Je vous retrouve tout à l'heure pour d'autres précisions. Alors, honorable Jean-Lucien Boussa, vous êtes également économiste monétariste. Vous avez suivi Monsieur Kayembe. Quels sont, d'après vous, les préalables à une véritable dédollarisation de l'économie congolaise?
Non, je pense qu'il faut commencer par préciser ce que c'est dollarisation de l'économie. C'est à la fois un choix, mais c'est aussi un état de fait. Il y a des pays qui ont choisi de dollariser leurs économies. Parce que la dollarisation de ces économies participait à une certaine stabilité macroéconomique, à une certaine stabilité des prix, à une certaine facilité en termes d'échange. Et je peux vous donner quelques exemples. L'exemple de l'Équateur, du Salvador et du Panama en Amérique latine sont des exemples éloquents. Ils ont fait le choix de la dollarisation qui comporte pour ces pays-là des avantages certains, bien que relatifs. Il y a ce qu'on appelle la dollarisation de fait, comme celle de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, où la dollarisation a été le fait des agents économiques, le fait des citoyens, qui face à une monnaie qui n'a pas été capable de remplir ses trois fonctions essentielles, la fonction des transactions, les réserves des valeurs et étalon de mesure. Le Zaïre à l'époque, le franc congolais aujourd'hui, n'ayant pas été à même de pouvoir remplir ces trois fonctions, les agents économiques ont choisi une monnaie qui finalement s'est imposée. N'est-ce pas? Donc nous sommes dans le cas de la dollarisation partielle où circule concomitamment la monnaie nationale et le dollar américain, donc une monnaie étrangère. Maintenant, mais pourquoi nous en sommes arrivés là? L'explication n'est pas que monétaire. Je crois que le directeur général sait très bien que l'inflation, la hausse des prix ne sont que les conséquences d'une économie malade, totalement malade. Je crois que le premier problème que nous avons connu dans ce pays est que, et depuis toujours, nous sommes une économie totalement extravertie, qui dépend totalement de l'extérieur, y compris pour les consommations, les produits de consommation de première nécessité. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, même en ce qui concerne les investissements, tous les biens d'équipement sont importés. De sorte qu'on a plus besoin de la devise étrangère que de la monnaie locale qui n'est pas compétitive. Deuxièmement, nous sommes une économie à production très déstructurée. Depuis 90, avec les pillages récurrents et la mauvaise gestion de la politique économique, ou la mauvaise politique économique impulsée depuis lors et qui s'est poursuivie, il s'est fait que nous sommes une économie complètement... une économie pas compétitive du tout et dont le niveau de production est resté très faible. De sorte que lorsque nous sommes dans notre balance commerciale, le rapport entre les exportations et les importations vous donne à vouloir désirer plus de devises que de francs congolais. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, nous avons conduit des politiques monétaires et d'échanges totalement inadaptées, inefficaces, qui n'ont pas permis le contexte économique d'une production insuffisante, d'une économie extravertie, donc dépendante de l'extérieur, de façon multiforme. On n'a pas été en mesure d'avoir une économie capable de pouvoir faire face à la demande locale. Et ainsi, l'hyperinflation que nous avons connue, n'est-ce pas, a fait en sorte que le Congolais puisse trouver une monnaie refuge. Donc dans ces trois fonctions, le dollar, de manière partielle, a servi, sert de paiement, y compris les paiements de salaire, donc transactions. Le dollar permet de faire des dépôts dont on est sûr que lorsqu'on a déposé 10 000 dollars dans une banque, on est assuré qu'au bout de 3 mois, ils ne seront pas érodés par l'effet de l'accroissement des prix.
Réserve de valeur.
Réserve de valeur. Troisièmement, on s'est rendu compte que c'était la meilleure mesure, n'est-ce pas, en termes de transactions, même avec le reste du monde.
Mais le directeur général Jean-Louis Kayembe a dit que il y avait déjà des préalables qui étaient réunis, mais comment vous analysez ça?
Non, je pense qu'il est important...
Notamment la stabilité du cadre macroéconomique.
Oui, je crois qu'il est bon, il est intéressant et il est même nécessaire que nous puissions arriver à une vraie stabilité du cadre macroéconomique, mais qu'il soit une stabilité structurelle, pas conjoncturelle. Regardez, lorsque d'une part, vous avez le dollar, le franc congolais qui se stabilise apparemment, mais d'autre part, lorsque vous prenez le franc congolais pour aller acheter les biens et vous avez besoin des services sur le marché... Les prix sont en perpétuelle augmentation, sinon ils ne retrouvent pas les niveaux qui permettent de pouvoir dire que le coût de production n'est-ce pas, est récupérée et que la marge bénéficiaire n'est pas exorbitante.
Le pouvoir d'achat ne suit pas.
Donc, je pense qu'il y a un problème réel entre la stabilité qu'on observe, je dirais une stabilité apparente, et la réalité dans le marché des productions et le marché des consommations de biens et services. Je pense que le jour qu'on va arriver à pouvoir mettre en cohérence les deux éléments, il est certain qu'on va aller plus loin. En ce qui concerne les solutions, je crois que la solution en termes de...
Okay. Les solutions, je t'aborde dans la deuxième partie, l'honorable Jean-Lucien Boussa. Monsieur Kitenge, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes analyste politique et économique, vous avez suivi le directeur général Jean-Louis Kayembe, l'honorable Jean-Lucien Boussa, qui a parlé d'une économie extravertie. Il y a une phrase si célèbre que vous citez souvent dans nos émissions, on importe tout jusqu'au cure-dent. Quelle est votre analyse par rapport à la dédollarisation de l'économie congolaise?
Je voudrais d'abord saluer nos auditeurs, mais également saluer M. Kayembe et M. Boussa qui sont sur plateau. J'ai entendu avec prudence et intelligence leurs propos. Je voudrais souligner et probablement nuancer un certain nombre de choses. Pour être un peu plus clair avec nos citoyens qui nous écoutent, lorsque on dit que 90% des dépôts et 95% de crédits dans les banques sont en dollars, il faut simplement aussi ajouter que 90% de notre population est en dehors de toute économie formelle. Ça pose toute la question du cadastre économique. Notre économie, celle qu'on mesure, celle dont on donne les chiffres, concerne une très petite partie de notre population. Je pense que le défi aujourd'hui, c'est déjà de créer une économie nationale, une économie qui englobe les citoyens sur toute l'étendue de la République, et ça, c'est un défi immédiat. De ce point de vue, la monnaie congolaise a un rôle extrêmement important à jouer. Lorsque le directeur Kayembe parle de la stabilité, il faut quand même dire qu'il s'agit d'une stabilité relative. En fait, on la compare à l'hyperinflation. Il faut dire que nous avons connu énormément de progrès. Mais encore qu'il faut toujours mettre le taux d'inflation, par exemple, face au taux directeur, pour que quelqu'un qui met son argent en banque soit sûr de préserver le pouvoir d'achat à échéance. C'est la seule chose qui motiverait les gens à pouvoir mettre leur argent en francs congolais dans les banques. Ceci dit, il faut quand même dire que nous ne pouvons pas penser que nous pouvons avoir une économie nationale correcte avec une activité informelle qui dépasse les 80%. Nous ne pouvons pas espérer avoir une stabilité économique réelle avec une offre disparate. Nous avons une économie à géométrie variable. Ce qui est valable à Chabunda ne l'est pas à Kinshasa. Les indices économiques qui sont à Kalemi n'ont rien à voir avec ce qui se passe à Boutan et à Bounia. Et nous devons donc arriver à créer un cadre national qui fasse fonctionner une économie normale. Que l'État ait une action publique qui permette que son symbole, la monnaie, soit accepté partout. Sinon, nous allons risquer de nous trouver dans une situation de balkanisation monétaire, ce qui est plus ou moins déjà le cas. Mon point de vue est que le moment est bien choisi. Il faut travailler sur les préalables. Il faut travailler avec prudence et pédagogie, et l'un des préalables étant la stabilité relative du cadre macroéconomique, qui en fait est la transpiration de la discipline qui est censée appeler la confiance. La confiance est le maître mot en matière de monnaie. Je pense qu'il est important que le gouvernement prenne conscience du fait que ça ne se décrète pas, c'est un défi et c'est un processus.
Alors, Monsieur Kitenge, l'honorable Boussa a parlé d'une politique monétaire parmi les causes, d'une politique monétaire inadaptée et inefficace.
Nous n'avons pas de politique monétaire du tout, il faut le reconnaître, je l'ai dit tout à l'heure. Notre action formelle du gouvernement n'influence pas le cadre économique national. Il influence 10% ou 20% à tout casser de notre économie. Une grande partie de notre population vit totalement en dehors. Et donc, pour se doter d'une politique économique qui influence réellement l'économie nationale, j'insiste, il est important de se doter d'une action qui traverse toute la République. Et c'est un préalable fondamental. Sinon, tous les instruments et toutes les théories économiques que nous allons tirer des livres n'ont aucun sens sur le plan pratique. C'est pour ça qu'on parle toujours de l'inadéquation entre les chiffres et la réalité dans la vie des hommes. Je pense, et il est important, qu'il faut qu'on se pose des bonnes questions pour qu'on puisse prétendre donner des bonnes solutions.
Prenons cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga pour vous, Al Kitenge.
Martine Dambo, à partir de Lubumbashi, la mesure gouvernementale consistant à privilégier la monnaie nationale dans les transactions commerciales est tributaire de deux petites choses, dont la lutte contre la thésaurisation. Donc, pour que cette mesure réussisse, il faudrait que le gouvernement puisse engager une lutte sans merci contre la thésaurisation des billets des banques. Et ensuite, il doit favoriser le recours à la monnaie scripturale au détriment de la monnaie fiduciaire. Or, privilégier la monnaie scripturale nécessite nécessairement la réhabilitation du circuit bancaire.
Réaction à Kitenge, où vous avez tout à l'heure parlé de la confiance, il ajoute la lutte contre la thésaurisation.
Guy a totalement raison. Le cash dans notre pays est le symbole de la corruption, de la fraude et de la mafia. Donc l'absence de traçabilité. La raison pour laquelle les gens privilégient les transactions en cash, c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas laisser des traces et donc ils ne veulent pas être contrôlés. Ça repose toute la question que je disais tout à l'heure, la question de la confiance. Mais il y a quelque chose qu'il faudrait que notre population sache, et M. Kayembe devrait le dire à très haute voix. Si aujourd'hui on impose par exemple aux opérateurs économiques de payer l'État ou d'interférer avec l'État en francs congolais, tout de suite il y a carence de moyens de paiement, il n'y a pas assez de billets. Il faudrait donc que l'État, dans le cadre de sa politique économique et monétaire dont parlait l'honorable Mboussa tout à l'heure, émette des billets. Et donc en plus du fait qu'on a déjà émis des billets à haute valeur faciale, il faut en émettre davantage en quantité suffisante pour monétariser l'économie. Parce qu'il n'y a pas assez de moyens de paiement en francs congolais. Et ça, c'est des choses qu'il faut dire. En le faisant, il faudra que l'État le fasse en toute responsabilité pour que nous ne fassions pas face aux effets pervers que nous avons connus du temps de Mobutu. Et donc, il y a beaucoup de besoins. Le premier besoin étant la méthode, la deuxième, la prudence, merci. Et la troisième, la pédagogie. Il faut expliquer aux Congolais ce qui se passe. Merci. Il faut toucher aussi bien dans leur émotion par des effets cosmétiques, mais également par des effets de fond. Il faudrait que les Congolais se rendent compte qu'ils sont pris en compte dans les décisions et dans la démarche de l'État. Merci. Que les organes de l'État fonctionnent pour l'intérêt général. Rétablir cette confiance, rétablir cette sympathie est très important pour que le gouvernement Matata puisse être en mesure de pouvoir entraîner aussi bien merci. Les citoyens de tous les jours que les opérateurs économiques. Mais à cela, il faut ajouter qu'il y a des non-dits. Par exemple, du fait de l'organisation informelle de l'économie, il y a donc énormément de choses de très mauvaise qualité qui se passent, qui vont réapparaître si jamais nous rentrons à une situation normale. Et là-dessus, moi j'en appelle toujours à une amnistie. Il faudrait qu'on refasse un nouveau cadre de vie, ce que j'appelle tout le temps le nouveau pacte économique, qui permettra aussi bien à l'État qu'aux opérateurs économiques qui ont été criminels dans le passé, merci. Pour des raisons peut-être justifiables. Tout à l'heure, un des intervenants a parlé de la condition politique économique.
Al-Kitenge, je vous redonne la parole tout à l'heure, sinon on risque de monopoliser la parole. Monsieur le directeur général Jean-Louis Kayembe, il y a cette réaction qui nous vient de Kolwezi au Katanga pour vous.
Professeur Ignace Ndala, depuis Kolwezi au Katanga, je pense que l'initiative est bonne. Cependant, le manque de maîtrise de la production dans notre pays, de culture pour le respect de notre monnaie, et ces mesures d'encadrement aura toujours pour conséquence le goût pour la monnaie des autres.
Voilà, le professeur Ignace Ndala revient également sur ce qu'a dit l'honorable Boussa tout à l'heure, en parlant de la production qui est déstructurée, monsieur le directeur général. Comment on va s'en sortir avec un pays qui ne produit pas?
Oui, merci, monsieur le journaliste. J'apprécie à juste valeur les contributions des collègues sur cette question. Pour répondre à cette préoccupation en rapport avec l'absence de production, je suis quand même embarrassé de ce que cela vienne des gens qui connaissent, qui ont quand même une idée sur quelques chiffres. Sur certains indicateurs, notamment les taux de croissance. C'est depuis 2002 que nous avons renoué avec la croissance dans notre pays. Donc, les derniers taux de croissance négatifs, c'était en 2001. Donc, de 2002 jusqu'au maintenant, en 2012,
nous avons un niveau de croissance au-delà de 5%. Cela veut, sauf pour l'année 2009, du fait de la crise financière internationale, nous avons eu un taux de croissance de 2,8. Donc, et pour cette année 2012, les prévisions tablent sur un niveau de croissance et cette difficulté. Donc, cela veut dire quoi? Lorsque l'on parle d'un taux de croissance qui dépasse 5%, cela veut dire qu'il y a une certaine production. Donc, je ne sais pas expliquer autrement comment dans ce, on peut défendre l'idée selon laquelle dans notre pays, il n'y a pas de production. Donc, de fait qu'il y ait production, et donc cette production qui est exportée, et la contrepartie, c'est que nous avons des recettes en devises. Et donc, lorsque vous regardez les chiffres que nous avons, la balance commerciale, la balance de paiement généralement, même la balance commerciale, pour ne parler que de cela, elle est excédentaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le niveau des exportations dépasse celui des importations. Je crois qu'il y a plusieurs publications de la Banque centrale, ainsi de suite, qui donne les chiffres clairement des importations, des exportations. Donc je recommande les uns et les autres de se référer, de parler sous base des chiffres, et je crois que ça sera plus efficace. Donc par rapport à cette préoccupation, je confirme qu'il y a croissance et qu'il y a récit d'exportation. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que la rentrée, les flux de capitaux que nous recevons en contrepartie des exportations, fait contribue à la stabilité du cadre macroéconomique, parce que ce sont les capitaux, les devises qui viennent alimenter l'économie nationale. D'ailleurs, ce sont ces mêmes devises qui sont utilisées pour faire face aux importations.
Monsieur le directeur.
Pour la plupart, les importations de biens et services, je suis tout à fait d'accord. Donc, si nous étions dans une situation de déficit structurel de la balance commerciale, c'est-à-dire si on importait plus que on exportait, on serait en train de consommer systématiquement les réserves des banques et de la banque centrale, et cela induirait une dépréciation continue du taux de change. Donc la stabilité du taux de change sur le marché de change veut dire quoi? Veut dire qu'il y a équilibre entre l'offre et la demande des devises. Et donc l'offre augmente des devises du fait qu'il y a des exportations. Et les exportations, si elles augmentent, c'est parce qu'il y a une certaine production qui est écoulée à l'extérieur. Et donc la stabilité sur le marché des changes découle des équilibres entre l'offre et la demande. Donc, et la demande, l'offre de devises est confortée par les exportations. Donc, il y a production. Alors, s'il faut que je revienne sur, si vous permettez, je revienne
très
sur
rapidement.
Certains aspects qui, très rapidement. Je suis tout à fait d'accord que la dédollarisation ne se décrète pas. D'ailleurs, pour votre gouvernement, les pays qui ont forcé la dédollarisation, et en fait, ils sont arrivés à des conséquences néfastes. Et par exemple, notamment les transferts de capitaux, les retraits massifs de déposants dans les banques, parce qu'il y a même des pays qui ont forcé la conversion des actifs en devises en monnaie nationale. Donc, je crois que nous sommes tous d'accord sur la même longueur d'onde pour reconnaître que il faut la dédollarisation, c'est un processus. Et donc, et dans le cadre de la RDC, le gouvernement et la Banque centrale, nous sommes d'accord qu'il faut forcer cette dédollarisation. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant même de commencer de décréter la dédollarisation, le gouvernement et la Banque centrale ont pris du temps. C'est depuis 2002 que nous avons travaillé pour stabiliser.
Merci.
Nous sommes sortis de l'impérance. Nous avons stabilisé le marché des changes. Et nous avons stabilisé le niveau des prix. Donc, après plusieurs années de stabilisation, et là, je suis d'accord avec notre collègue, M. Kitenge, qui a évoqué l'aspect de la pérennisation des instabilités.
Merci.
Et donc, pour stabiliser, pérenniser la stabilité, il faut des bonnes politiques et des politiques orthodoxes au niveau macroéconomique, budgétaire et monétaire.
Voilà,
je suis d'accord.
Monsieur, et sans
ce préalable, cette condition, tout ce que l'on peut décréter comme mesure dans le cadre de la dédollarisation, ça sera inefficace. Donc
je suis
d'accord.
Merci. Souffrez également que je vous arrête le temps de donner la parole à l'honorable Jean-Lucien Boussa. Honorable, il y a cette réaction qui nous vient de Bounia en province orientale pour vous.
Joseph Moundo de Bounia, la démarche du gouvernement n'aura pas un impact positif aussi longtemps que le gouvernement n'aura pas changé sa politique monétaire et budgétaire qui est toujours peu orthodoxe, parce que nous savons très bien dans ce pays que pour un certain nombre de projets qui sont financés par le gouvernement cesse toujours de recourir à la France à billets, Et aussi, notre gouvernement n'a pas une politique monétaire cohérente. Et au-delà de ça, il faudrait peut-être signaler que tout agent économique rationnel est appelé à se rassurer que la monnaie joue son rôle d'épargne. Et à ce que je sache, en République démocratique du Congo, la monnaie congolaise n'a pas cette qualité-là de jouer le rôle d'une épargne. Les agents économiques rationnels ne doivent que recourir à une devise étrangère qui joue ce rôle-là.
Réaction honorable Boussa.
Ben, je crois que l'auditeur a raison pleinement. Comment peut-on espérer bancariser une économie lorsque plus de 80% de citoyens n'ont pas la capacité de pouvoir avoir des épargnes? Vous avez un salaire en dessous de la limite acceptable, vous allez épargner quoi? Or, les banques sont nourries aussi par le fait de l'épargne nationale, je veux dire. Deuxièmement, il pose un problème, la question de la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire la mauvaise qualité de la dépense publique, la mauvaise la mauvaise gestion des recettes publiques. Tout ça, c'est des questions réelles. Mais bon, j'aimerais plutôt, après avoir répondu à l'auditeur, mais réagir un peu par rapport à ce que le directeur général a dit tout à l'heure. La stabilité du cadre macroéconomique. Je pose une question simple. Si tous les paiements étaient effectués en francs congolais demain, si tous les agents de l'État, y compris les privés, étaient payés en termes de salaire en francs congolais demain, qu'est-ce sera devenu ce cadre macroéconomique? Il va exploser, tout simplement. Ça veut dire que ce n'est que précaire. Et il faut travailler durement pour avoir un cadre macroéconomique stable dans la durée. C'est ça l'enjeu aujourd'hui et les défis à relever. Ce n'est pas encore le cas. Deuxièmement, en ce qui concerne le niveau de production, mais nous continuons à confirmer que le niveau de production est faible et l'accroissement de la production ne profite pas à l'économie congolaise. Et on peut s'expliquer. Il y a des arguments là-dessus, n'est-ce pas? Et très nombreux arguments là-dessus. Je pense que aussi, la finalité de notre économie monétaire, c'est aussi d'avoir un franc congolais fort, mais un franc congolais véritablement fort. Ça veut dire que lorsqu'on dispose de son franc congolais, il remplit ses trois fonctions élémentaires et classiques. Réserve des valeurs, n'est-ce pas? Étalon de mesure, etc., etc. On n'en est pas encore là. Parce qu'en face de ce qu'on prétend dire stabilité monétaire, les citoyens, les 90%, ne savent pas, avec autant de francs congolais, résoudre les problèmes élémentaires. Les 100 dollars au Congo sont 4 fois moins en termes de pouvoir d'achat que les 100 dollars dans un pays voisin, au Congo-Brazzaville par exemple. Ça pose quand même un problème. Donc nous considérons qu'il est certes, il est bon de pouvoir y aller, mais je pense qu'il y a des préalables qu'il faut absolument prendre en considération et pousser l'analyse et les décisions en profondeur.
Alors, honorable Boussa, est-ce que cette dédollarisation pourrait avoir quel impact d'après vous sur l'économie congolaise?
Mais d'abord, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive.
Non, c'est trop tôt pour là.
Non, il faut qu'on y arrive. Parce que quand j'ai suivi le ministre des Finances, il se limite à un seul aspect de la dollarisation. Il y en a trois. L'aspect transaction courante. Désormais, on va payer en francs congolais. Désormais, j'espère que les factures ou les dépenses d'infrastructure pour les marchés chinois, etc., seront payées en francs congolais. J'espère aussi, n'est-ce pas? Et donc, je pense qu'il faut y arriver. C'est un défi à relever, mais il faut prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire avoir une économie compétitive, introvertir l'économie, que les produits de la croissance profitent aux Congolais, que les déterminants de la croissance économique soient maîtrisés par les Congolais eux-mêmes. À partir de ce moment, avec un cadre macroéconomique stable, avec une compétitivité retrouvée, avec une épargne stable, c'est-à-dire quelqu'un qui dépose les francs congolais dans sa banque, qui revient prendre son argent 6 mois plus tard, qui retrouve la même valeur en termes de pouvoir d'achat. En ce moment-là, on peut espérer.
Et c'est ça qui renforce la confiance,
et là,
d'ailleurs.
En ce moment-là, la dédollarisation profitera à l'économie congolaise. En attendant, je pense qu'il faut beaucoup d'efforts, et le grand effort doit aller dans la direction de la production, dans la direction des bonnes politiques économiques, des bonnes politiques en matière de finances publiques, des bonnes politiques monétaires et des bonnes politiques d'échange.
Sylvestre Pirot de Bukavu, Sud Kivu. Pour ma part, le gouvernement doit faire en sorte qu'il y ait présence des bureaux de change dans tout le pays, organiser la mise à terme du phénomène cambiste au Congo, récupérer les vieilles coupures des francs congolais, payer les agents en monnaie nationale, prévoir des sanctions aux gens qui font l'échange en dehors des bureaux de change, disposition d'une quantité suffisante de devises étrangères à chaque frontière. Honorable Boussa, pensez-vous que ça peut résoudre le problème des dédollarisations au moment où Alki Tengue parlait pratiquement de la balkanisation déjà économique?
Mais c'est vrai, il y a un vrai problème dans ce pays. Les paramètres macroéconomiques qu'on nous présente à Kinshasa et n'ont rien à voir avec ce qui se passe à l'Équateur, ce qui se passe dans le Bandundu, ce qui se passe dans le Maniema. C'est aussi ça le défi à relever. Il faut une économie avec des données harmonisées. Le 10 000 francs congolais à l'Équateur ont quel pouvoir d'achat? Et quel est le pouvoir d'achat des 10 000 francs congolais à Kinshasa? C'est la nuit et les jours, aussi bien en ce qui concerne les produits manufacturés que les produits de première nécessité. Ça pose un problème. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'éléments et donc je pense qu'il faut relever que la matière est complexe, les défis sont de taille, mais il ne faut pas croiser les bras, il faut travailler en allant vers les fondamentaux et non sur les aspects accessoires qui ne sont que la conséquence du déficit de production, du déficit de compétitivité, du déficit d'industrialisation du pays et des mauvaises politiques économiques et sociales.
Alki Tengue, l'impact sur l'économie congolaise, l'honorable Boussa a dit qu'il faudrait commencer par y arriver, cette dédollarisation. Et vous, déjà, vous parliez de la création d'une économie réellement nationale.
Oui, Alain. Il y a des choses fondamentales qu'il faut dire de manière simple à nos populations pour que celles-ci comprennent. Je n'aimerais pas être à la place du directeur Kayembe parce qu'il est à la fois en train de s'adresser à ses concitoyens, mais également en train de parler en tant que cadre d'une institution qui a un rôle important à jouer, la Banque centrale. Quand il parle du taux de croissance qui a été plus ou moins maîtrisé, il faut savoir quand même qu'en même temps que nous avons cette croissance de la production intérieure brute, il y a une croissance de la population. Et donc la relativité exige qu'on regarde le produit intérieur brut par tête d'habitant. Et il faut, si vous regardez cela, notre croissance est bien plus modeste. Première chose. Deuxième chose, il faut quand même se rendre compte que, en même temps que nous parlons de la croissance de la production intérieure, il y a des fondamentaux clairs comme le vrai niveau de vie du Congolais, la chose qui peut lui permettre de dépenser et de faire gagner à l'État de l'argent. Lorsque vous regardez l'offre et la demande de devises dans notre pays, nous avons de temps en temps et de manière substantielle des appuis budgétaires sur nos réserves de change qui viennent du Fonds monétaire international et des partenaires. C'est ce qui nous a permis de créer, et c'est pour ça que l'honorable Moussa appelle cette stabilité artificielle, en fait il y a énormément d'efforts aussi bien internes que de la part de nos partenaires pour essayer de stabiliser ce cadre. Mais en fait, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il faudrait qu'on apprenne à être un pays tout simplement normal, qui fonctionne de manière simple. Un pays qui produit sa nourriture et ses produits de base. Un pays qui ne recourt à la monnaie étrangère que pour le commerce extérieur. Et pour cela, il y a un minimum de préalables à mettre en place. Il faut stimuler l'exportation pour que nous ayons suffisamment de devises dans notre réserve. Et pour ça, il est important que nous développions un desk exportation et que ce soit un desk exportation qui favorise les produits à valeur ajoutée. C'est pour ça, par exemple, qu'il est inacceptable que nous exportions du bois en grume et que nos produits miniers quittent chez nous sous la forme de matières premières. Il est important que notre loi puisse aller dans ce sens. Deuxième chose, il faut travailler sur le règlement de change. Monsieur Kayembe va vous le dire. Aujourd'hui, notre règlement de change autorise aux exportateurs de ne rapatrier qu'une partie de devise. Où va l'autre partie? Notre loi dit aussi que lorsque les gens investissent chez nous, ils ont le droit d'expatrier les dividendes. C'est la seule partie de l'argent que les gens gagnent chez nous doivent être en mesure d'exporter. Pour quelles raisons les gens veulent-ils garder les recettes d'exportation à l'extérieur et pour quelles raisons l'État les autorise? Troisième chose, il est important qu'on développe une certaine loyauté envers la République. Lorsque vous avez une nation comme votre nation économique, c'est là que vous travaillez, vous générez vos revenus, il est important que vous sachiez que vous lui devez la loyauté. C'est pour ça que toutes les lois parlent de ce qu'on appelle la domiciliation fiscale. Et il est important que l'État congolais devienne exemplaire et qu'il soit exigeant.
Alors, Alky Tengue, il nous reste moins de 5 minutes pour terminer cette émission. Pourrons-nous finalement arriver en RDC à la dédollarisation de l'économie congolaise? Est-ce possible? Est-ce qu'il faut espérer?
Il est possible de dédollariser l'économie congolaise, c'est un processus à long terme. Mais pour le faire, il faut domestiquer l'économie congolaise. Notre économie est à 80% entre les mains des étrangers. Ces personnes étrangères qui investissent chez nous et qui ont tous les pouvoirs économiques détiennent un pouvoir politique parce qu'ils influencent les opérateurs politiques. Il est important que nous sachions que l'Afrique du Sud qui a mis en place le Black Economic Empowerment ne s'est pas trompée. Il nous faut une version révisée et corrigée du Congo Economic Empowerment pour être en mesure de stimuler l'opérateur économique congolais.
Merci.
L'opérateur économique congolais qui, lui, qui devra être en mesure de domestiquer l'économie. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être dangereusement exposé de cette manière. C'est pour ça que quand on parle aujourd'hui des gens qui dévalisent les banques tout de suite lorsqu'il y a la moindre instabilité, c'est des gens qui se sentent insécurisés. Pour à raison ou à tort,
merci.
Mais en tout cas, les turpitudes politiques du passé leur ont donné des raisons.
Merci.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, au lieu de produire localement, au lieu de pêcher localement, préfèrent importer des produits. Non pas parce qu'ils ont réellement besoin d'importer des produits de première nécessité, non. C'est des exercices pour exporter les devises. En général, ces grandes sociétés, il y en a beaucoup, ont une société sœur à l'étranger qui font ce qu'on appelle la plateforme d'achat.
Alors, en guise de conclusion, Alky,
ils font des bénéfices en déclarant les activités locales faibles
Voilà, Monsieur le Directeur Général Jean-Louis Kayembe, il faut déjà conclure. Qu'est-ce que les auditeurs et internautes qui vous suivent en ce moment peuvent retenir par rapport au processus de dédollarisation de l'économie congolaise que vous avez amorcé?
Ouais, merci. Je veux dire ceci en conclusion que, en fait, dans le processus, il faut retenir que le gouvernement et la Banque centrale ont mis en place une stratégie réfléchie de dédollarisation. Et cette stratégie prône en fait une dédollarisation en douceur, et non pas une dédollarisation forcée. Et je retiens cette dollarisation, comme il y a plusieurs types de dollarisation, il y a la dollarisation des paiements, la dollarisation financière, la dollarisation réelle, les mesures vont concerner des trois types de dollarisation. Nous allons donc, c'est la mesure qui a été annoncée par le gouvernement, notamment l'affichage des prix, ça aura un impact sur la dollarisation réelle.
Merci.
Là, il s'agit de la dollarisation des prix. Donc, c'est un processus à long terme, et c'est un processus qui va comporter plusieurs préalables, la stabilité,
les instruments. Merci, Monsieur Kayembe. Merci, souffrez que je vous arrête, honorable Boussa, conclusion.
Non, moi je crois qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller vers les fondamentaux. Il n'est pas besoin de proclamer qu'on va dédollariser l'économie. Il est question d'agir sur le secteur économique et la production augmentant. Le niveau des prix s'est stabilisant. Le marché financier existant et efficace, n'est-ce pas? L'épargne des citoyens augmentant, on en arrive à ce que les citoyens eux-mêmes se débarrassent du dollar ou des devises étrangères et privilégient le franc congolais.
Et dans le cas où on irait sur ces fondamentaux, cela jouerait sur l'économie congolaise.
Absolument, dès lors que il y a une volonté politique dans le sens de pouvoir investir dans les fondamentaux, il est logique que les citoyens qui eux-mêmes ont choisi la dollarisation. Ce n'est pas le gouvernement qui a imposé la dollarisation. Ils ont choisi la dollarisation pour se réfugier. Ces mêmes citoyens vont sortir du refuge.
Alky Tengue, juste un mot pour conclure.
Il nous faut une économie nationale intégrée et une interdépendance des provinces. Nous devons faire un bond qualitatif et quantitatif afin d'offrir une offre publique comme le GSM. Aujourd'hui, lorsque un Congolais est à Kinshasa, il téléphone à un prix. Il est à Pounia, il téléphone à un prix. Il est à Dilolo, il téléphone au même prix.
Merci.
La République démocratique du Congo devra concevoir une économie qui s'adresse à tous ses citoyens.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. L'information continue sur radiocapi.net. Au revoir.